Donc nous allons parler d'un sujet matinal, déclin de la science-fiction et essor de la fantasy, avec un point d'interrogation. Et donc on va se demander si vraiment la science-fiction est en déclin, si vraiment la fantasy est en essor. Et peut-être on va pouvoir l'évoquer et à la fois en termes de thématique et à la fois en termes de vente, puisque nous avons un plateau prestigieux pour cette matinée. Alors, complètement à ma gauche, nous avons Lionel Davoust. Lionel Davoust qui est traducteur et qui est aussi auteur. Je signale deux de ses ouvrages qui sont L'importance de ton regard et La volonté du dragon. Juste à sa droite et donc à ma gauche, Fabrice Collin. Alors, je ne vais pas vous citer tous les titres de Fabrice Collin, sinon il n'y aurait pas de conférence. Alors, en BD, La Brigade Chimérique, Big Fan, je cite juste les derniers, hein. La saga Bellelson, Les Vampires de Londres, La fin du monde. Tu veux en ajouter un, hein, Fabrice? Voilà. Donc auteur. À mes côtés, Stéphane Marsan, qui est donc directeur des éditions Bragelonne, et qui on parlera peut-être aussi un petit peu chiffres, savoir si le déclin ou l'essor se répercute en librairie. Et puis à sa droite, Serge Lehmann, qui a fait L'Olieu, qui a fait en ce moment les BD La Saison de la Couleuvre et La Brigade Chimérique aussi, et qui a dirigé l'anthologie Retour sur l'horizon aux éditions de Noël, qui est parue en octobre. En octobre dernier. Peut-être on va commencer avec Stéphane Marsan. On va attaquer tout de suite sur des chiffres, puisqu'on se pose la question de savoir s'il y a un essor de la fantaisie et un déclin de la science-fiction, et si les deux sont liés. Peut-être simplement en termes de chiffres, parce que vous aviez une collection de science-fiction, vous avez aussi la collection Trésor de la SF, et puis aussi une collection fantaisie. Concrètement, qu'est-ce qui marche le mieux?
Bonjour. Oui, je vais jouer le rôle de l'épicier en commençant tout de suite par des choses très désagréables, mais je pense que c'est pas plus mal parce qu'autant faire face à la réalité des choses pour ensuite que mes compères développent à quel point il est bon de lutter contre elles. En effet, l'intitulé de ce panel donne bien le ton, à savoir que globalement, la science-fiction vend beaucoup moins qu'il y a un certain temps et que la fantasy vend beaucoup plus. C'est-à-dire globalement, aujourd'hui en librairie, au rayon dédié à la science-fiction, à la fantasy et au fantastique et à l'horreur qui, dans cette histoire, joue le rôle d'un espèce de troisième homme aussi dans une situation très problématique, on pourrait considérer que la fantasy représente entre deux tiers, trois quarts des ventes, aux alentours de 70%, 75% facilement. Et le reste, c'est la science-fiction et, dans une moindre mesure, l'horreur et le fantastique. Je voudrais commencer par dire que c'est partout le cas dans le monde, ce qui est une donnée extrêmement importante parce que, en gros, voilà, c'est pas un problème franco-français. D'ailleurs, je viens de citer le mot. Si on aborde ce sujet, c'est que pour nous, c'est un problème. Ce qui est déjà, à mon avis, une bizarrerie, une anomalie. C'est-à-dire, ça montre bien que pour tous les gens qui sont ici, qui n'ont pas de préférence particulière ni pour l'un ni pour l'autre, ou en tout cas qui ne se sentent pas les champions de l'un contre l'autre, que un ou plusieurs des genres de l'imaginaire soient dans une situation délicate sur le marché est un problème. Et ça, c'est intéressant parce que dans le reste de l'édition et de la littérature, en fait, ça, les gens, ils s'en foutent totalement, si vous voulez. C'est-à-dire que en gros, un éditeur de polar, je pense, ne se dirait pas « Oh mon Dieu, quel dommage, le roman détective à la Agatha Christie aujourd'hui ne vend plus, maintenant c'est du thriller de serial killer, il faut faire quelque chose ». C'est une particularité des éditeurs d'imaginaire de se sentir une sorte de responsabilité pour l'ensemble des genres qui constituent ce qu'on a coutume d'appeler les littératures d'imaginaire, intitulé que personnellement, pour lequel j'ai pas beaucoup de tendresse, parce que quelle littérature n'est pas imaginaire. Mais en tout cas de se dire ah zut la SF va pas bien, il faudrait que ça aille mieux, ou ah tiens je publie pas de SF, il faudrait que je le fasse. Bon. Donc un côté un peu patrimonial, traditionnel, nous appartenons à ces genres ou ces genres nous appartiennent, et c'est un peu comme une famille où il faudrait ne pas complètement négliger le cadet ou le benjamin de la famille. Donc concrètement oui, la science-fiction vend beaucoup moins. Le problème c'est pas tant qu'elle vend beaucoup moins que la fantasy, le problème c'est qu'elle ne vend plus assez. Et si je joue ici le rôle de l'épicier en parlant de ça, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, les éditeurs ont moins envie d'en publier parce qu'ils n'aiment pas plus que les autres perdent de l'argent. que les libraires vont lui donner moins de place parce que eux aussi, ils ont besoin de donner la plus grande visibilité à ce qui va leur permettre de payer leur loyer, leurs employés et de manger. Et que voilà, il y a tout un ensemble de conséquences, évidemment, de toutes la tentative de d'imprégnation et de reconnaissance médiatique de la science-fiction qui avait été relancée avec brio il y a une dizaine d'années par Serge Lehmann en particulier, du coup affronte un obstacle supplémentaire, c'est-à-dire que votre bouquin, le bouquin dont vous parlez, ça a l'air vachement bien, mais je le trouve nulle part. Bon, ou alors ce bouquin a l'air génial, mais personne va le traduire en France, par exemple, ou ce manuscrit est formidable, mais personne ne veut le publier parce que ça vend pas assez. Bon, donc voilà. Ce sont des faits. Ce sont des faits qui, en même temps, je voudrais apporter quand même une précision par rapport à ça, c'est que tous les genres littéraires, y compris ceux qui vont mal, comptent toujours dans leur rang des gens qui vendent, des auteurs qui vendent incroyablement mieux que tous les autres. C'est-à-dire, si vous regardez la liste des 100 meilleures ventes de science-fiction, de fantasy et de fantastique en Angleterre, par exemple, sur toute une année ou sur les 5 dernières années, vous ne trouvez que 3 ou 4 auteurs de science-fiction. Par contre, vous les trouvez dans les premières places. C'est-à-dire, vous avez Ian Banks, vous avez Peter Hamilton, vous avez Alastair Reynolds, vous avez Richard Morgan. Après, il n'y a plus personne. Et pendant 100 places, et quand même. Bon. Mais en tout cas, ils sont là. Ian Banks est quelqu'un qui vend 150 000 exemplaires, un auteur de science-fiction qui vend 150 000 exemplaires. À part Bernard Werber, en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on se rend bien compte que, et c'est sûrement là-dessus que mes amis vont prolonger la conversation, c'est déjà essayer de trouver des raisons pour ça, et notamment des raisons de ce décalage, c'est-à-dire qu'on sait très bien en même temps qu'au cinéma, en bande dessinée, en jeux vidéo, etc., la science-fiction fait fleuresse. C'est la bande dessinée particulièrement, et sans doute le seul genre paralittéraire où la science-fiction a toujours eu une place prépondérante et la garde, pour des raisons qu'il serait intéressant d'explorer, j'imagine en particulier l'aspect visuel. Je trouve très intéressant que parmi les honorables auteurs qui sont à cette table, la plupart font également de la bande dessinée, voire même du cinéma. Oui, du point de vue d'éditeur et sur le marché, il y a clairement un déclin de la science-fiction qui a été amorcé il y a très longtemps, qui ne date pas d'hier, et un essor de la fantasy qui ne date pas d'hier non plus, puisqu'il date des années 80. Donc finalement, parler aujourd'hui d'essor de la fantasy, c'est comme si on disait que la micro-informatique est en train d'envahir les foyers. Oui, ça fait un moment. D'ailleurs, si on a besoin d'un post-scriptum à un moment donné, je vous dirais qu'en fait, la fantasy a amorcé son déclin aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire.
On va poser la question maintenant à Serge Lehmann. Donc Serge, qui a eu, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, qui a fait une grosse anthologie de science-fiction importante qui s'appelait Escale sur l'horizon et qui vient de faire une anthologie qui s'appelle Retour sur l'horizon. Est-ce que d'abord thématiquement les choses ont changé ? Est-ce que tu as l'impression que les choses aient changé ? Est-ce qu'il y a eu moins d'engouement pour la première que pour la deuxième ou vice-versa ? Est-ce qu'il y a un vrai déclin selon toi ?
Sur les anthologies elles-mêmes, comment dire, d'abord c'est un peu tôt pour savoir, et puis c'est pas le même projet, c'est pas le même éditeur, c'est pas le même contexte, donc je vais pas répondre en utilisant l'exemple des anthologies. Moi, ce qui me frappe surtout sur l'anthologie, c'est la différence des tons, et cette différence de ton, elle a peut-être quelque chose à voir avec le processus de déclin que Stéphane décrit sur le plan éditorial. Moi, je vais faire... deux commentaires sur la question du déclin. Trois. Le premier, c'est que, de manière irrationnellement optimiste, il me semble quand même que depuis que la science-fiction existe comme genre, c'est-à-dire depuis les années 30 aux États-Unis, avant en France, mais en fait c'est une histoire suffisamment complexe pour qu'on ne brouille pas les cartes, on assiste à des phases d'essor et de déclin périodiques. Et il est peut-être qu'on est en train de vivre quelque chose qui est de l'ordre d'une disparition, ou ce qui est très possible, de la SF. Mais on peut aussi être dans simplement un creux de la vague, quoi. Il y a des cycles durant gros 20 ans, c'est des cycles générationnels. Tous les 20 ans, il y a une nouvelle génération de lecteurs qui redécouvre le genre, les classiques, qui se dit « Ah, c'est bien, les nouveaux auteurs ». Et ça repart. C'est arrivé pendant les années 90. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu un moment de contre-déclin, mais enfin... En tout cas, je pense quand même qu'il y a une chance qu'on assiste à un retour de la SF dans les 10 ans qui viennent, parce que c'est un genre qui oscille de manière générationnelle. La deuxième chose, c'est, il me semble, mais c'est peut-être, j'exclus pas non plus que ce soit un effet de fatigue personnelle ou d'avoir tout lu, et donc bon, il me semble quand même que l'ASF en tant que genre connaît non pas une crise d'inspiration, mais des romans sur le futur, des romans cœur de genre, sur le futur technique, technologique et scientifique, ont été publiés, qui sont tellement puissants, tellement documentés, faits par des scientifiques de haut niveau, comme Gregory Benford ou Charles Sheffield, ou aujourd'hui Alastair Reynolds, bon, d'une certaine manière, l'amateurisme théorique qui a longtemps prévalu dans la science-fiction, mais qui était un amateurisme génial, d'une certaine manière euphorique. N'importe qui, ayant un brin d'imagination, se lançait là-dedans et pouvait sortir un chef-d'œuvre parce que tout était à faire. Bon, après un siècle de science-fiction et des grandes œuvres et une espèce d'exploration méthodique, empirique, mais méthodique du futur, du thème du futur et des sciences, il n'est pas exclu qu'on ait fait le tour de cette manière de faire de la littérature. Et ça me paraît d'autant moins exclu que, je ne veux pas surévaluer le phénomène, mais la théorie de la singularité mise au point par Werner Winch dans les années 90, lui-même mathématicien, je crois, est une théorie qui à la fois dit quelque chose sur l'impossibilité de prédire le futur et en même temps a un tel statut cognitif, intellectuel, une telle puissance que tout auteur de SF un peu sérieux qui souhaite avoir une démarche prospective sur le futur doit quand même plus ou moins en tenir compte. Quoi, voilà. Soit pour la réfuter, soit pour dire qu'il s'en passe, soit pour dire c'est de ça dont je m'occupe. Mais cette théorie, elle est là, et comme elle prophétise, ou comme elle dit au-delà de 2050, 2060, l'acte même de prospective et de prévision est absurde. Le futur lointain, il n'y a aucun moyen de savoir à quoi ça va ressembler. Il y a une partie des portes classiques de la SF à grande échelle, disons, qui se sont fermées. Pas toutes les portes, pas fermées forcément. Peut-être que c'est en train de se rouvrir, j'en sais rien. Mais il me semble que ce moment-là, intellectuellement, il a été assez important au tournant des années 90-2000. C'est le moment où la SF a fait la théorie, d'une certaine manière, de sa propre impasse prédictive. Bon. Or, bien que les auteurs de SF aient toujours dit très soigneusement qu'ils ne prévoyaient pas le futur, c'était pas leur but, ça joue quand même un rôle dans la mythologie de la SF comme genre, le rapport au futur et aux sciences. Bon. Donc ce rapport, il est devenu très complexe. Aujourd'hui, quelqu'un qui déciderait d'écrire un roman sur 2040-2050, il devrait spéculer simultanément pour faire quelque chose d'un peu solide sur l'évolution du climat, la convergence de la génétique, de l'informatique, des nanotech, enfin bon, le tout en créant une histoire, en imaginant des migrations à l'échelle de la planète. Bon, comment dire, il y a 10 ans de travail de documentation pour écrire un roman, quoi. Je suis pas sûr que ce soit ce genre, il est pas forcément fait pour ça, quoi. Il doit être aussi un peu joyeux. Voilà. Et la troisième chose pour donner un contenu concret au éditorial au thème du déclin numérique, c'est justement le terrain éditorial. Jusque dans les années, je parle pour la France là seulement, jusque dans les années 80, il n'y avait pas de fantasy en tant qu'entité éditoriale. Il n'y avait que de la science-fiction du point de vue des collections. Mais dans les collections de science-fiction, il y avait quelques types de fantasy. Il y avait du Abraham Mérite, il y avait du Conan le Barbare, il y avait le Seigneur des Anneaux, enfin tout était un peu comme ça, glissé. Et je pense qu'en fait, il est très probable qu'une partie des lecteurs qui aimaient la science-fiction, qui disaient aimer la science-fiction pour ses vertus euphorisantes, dépaysantes, picaresques, finalement, à partir du moment où on a mis à leur disposition un label fantasy dédié spécifiquement, alors non plus à la réflexion prospective sur les sciences et le futur, mais à l'aventure et à un imaginaire débridé, se sont reportés presque automatiquement sur ce label-là. En gros, on est passé de Jack Vance et Marion Zimmer Bradley en SF aux grandes séries de la fantasy, parce que c'est, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est plus ou moins la même émotion. Voilà. Et du coup, bon, il y avait aussi, pendant toute cette période, il n'y avait pratiquement plus de fantastique. Par contre, il y avait encore du fantastique un peu dans la collection de SF, du Richard Matheson, du Stephen King. Voilà. Et au fur et à mesure, finalement, qu'il y a eu spécialisation, ou plutôt spéciation, je ne sais pas comment on pourrait dire, du point de vue des labels éditoriaux, et qu'on est passé d'un label fourre-tout science-fiction où il y avait beaucoup de SF, un peu de fantasy, un peu d'horreur, à des tables avec un marketing différent et des labels éditoriaux différents, l'ASF s'est retrouvée un peu nue. C'est-à-dire, ce qu'on appelle SF aujourd'hui, c'est un genre finalement assez intellectuel, très écrit souvent, très ambitieux sur le plan cognitif ou littéraire, et peut-être intimidant. Voilà. Et d'autant plus intimidant et littéraire qu'une partie de la science-fiction la plus intéressante aujourd'hui se fait hors des collections, directement en littérature blanche, puisqu'à bien des égards, la SF est aussi passée dans la culture contemporaine maintenant. Je pense que ce problème-là est quasiment réglé. Donc le thème du déclin, il doit être complexifié de ce point de vue-là, je pense. Il y a probablement un déclin de la science-fiction en tant que genre fonctionnant avec des règles. Peut-être que ce système-là est en train de se diriger tout doucement vers sa fin. Mais c'est parce que une partie de l'activité onirique et fantasmatique de l'ASF s'est reportée sur d'autres genres. Mais c'est peut-être une affaire générationnelle. Mais c'est peut-être aussi que l'ASF a réussi finalement à devenir une des grandes ressources de l'imaginaire contemporain sans étiquette. Voilà, il suffit de lire Michael Chabon pour voir que, comme le polar, la SF fait aujourd'hui partie de la littérature contemporaine, ou Thomas Pynchon, bon, ou Michel Houellebecq. Enfin, tout ça est tout à fait admissible. Donc le déclin numérique, sans doute, enfin, ça c'est un fait, mais l'interpréter est, à mon avis, assez compliqué et pas forcément si sombre qu'on peut croire.
Je reviens juste sur l'aspect historique, puis je te donne la parole, Stéphane. Simplement, tu disais qu'il y a eu des cycles avec des creux dans la science-fiction, mais est-ce qu'il y a une période ou un genre au sein même de ce qu'on appelle l'imaginaire, comme on n'a pas trop d'autres mots là-dessus, est-ce qu'il y a eu des périodes où au sein même de l'imaginaire, il y avait un autre genre qui était aussi fort qu'aujourd'hui la fantasy? C'est juste une question. Est-ce qu'il y a une situation comparable à un moment donné qui pourrait nous faire penser que la pente va repartir pour la science-fiction ou pas?
Non, il y a des. J'ai écrit un truc là-dessus récemment. Aujourd'hui, il y a, enfin, dans la SF cœur de genre, l'art, ce qu'on appelle l'art science, est quelque chose d'assez respectable. Enfin, un peu moins qu'il y a une dizaine d'années, mais ça reste quelque chose de fort, quoi, qui structure le genre encore, ces gros romans très très documentés, en général écrits par des scientifiques ou des gens ayant une excellente culture scientifique. Dans les années 70, ça avait complètement disparu. C'est revenu parce que il y a eu à nouveau une actualité scientifique excitante, en particulier le tour des sondes voyageurs du système solaire, des progrès importants en génétique, bon, qui ont généré tout un nouvel imaginaire que des auteurs ont mis sur la table sous forme de romans. Donc, je ne réponds pas précisément à ta question, mais à l'intérieur de l'ASF, il y a eu un moment de quasi-extinction du courant des romans scientifiques, disons, qui est revenu en force à la fin des années 80-90 avec Neil Stephenson, Greg Egan, qui sont aujourd'hui des figures structurantes de l'ASF. Donc, à l'intérieur du genre, des tendances, si tu veux, peuvent complètement décliner et disparaître et revenir. C'est un genre qui est très appuyé sur l'état du monde, quand même. Hein. Donc... peut-être que ça fait 10 ans qu'on est entré dans une phase assez sombre de notre histoire. Le futur est bouché. Il faut pas oublier ça aussi, c'est que c'est des truismes et peut-être des facilités de raisonnement, mais j'ai un peu de mal à croire que après 10 ans d'actualité où pour la première fois on a à la une des journaux télé et des journaux papier des titres concrets sur la fin du monde à l'horizon 50, 100 ans. Épidémie, réchauffement climatique, astéroïdes tueurs, etc. C'est des trucs, il y a 50 ans, jamais on aurait eu ça dans l'actualité. Aujourd'hui, ça y est. Bon. Quand la secte Raël annonce qu'elle a cloné un bébé humain, même si elle ne prouve pas, enfin, même si c'était une escroquerie, ça fait la une des journaux dans le monde entier pendant une semaine. On vit dans un monde qui est largement le monde de la SF des années 70, hein, quand même. Et peut-être que les gens n'ont pas envie d'ouvrir des livres sur ça, parce que ça, ils l'ont très très souvent de manière anxiogène.
Ouais. Stéphane, tu voulais réagir ?
Pour rebondir très rapidement, pour laisser la parole à l'autre bout de la table, que la gauche s'exprime. Prolonger deux, trois trucs que tu as dit, je pense qu'il y a quand même, pour revenir dans mon rôle d'épicier, un aspect vachement important, c'est-à-dire quand on dit fantasy ou science-fiction, de quoi on parle ? On parle de la catégorie marketing ou, comme disait Serge, du label. C'est-à-dire, sur son blog, Christine Catherine Roche, grande auteure de science-fiction et dans une moindre mesure de fantasy, a écrit il y a quelques mois un article qui s'appelait « La science-fiction est morte ». Évidemment, un titre provocateur à dessein qui était hyper intéressant parce que elle dit « J'étais en voiture avec mon mari et tout d'un coup, je lui ai dit « Mais en fait, Bill, la science-fiction est morte ». Et en fait, elle voulait dire quoi ? Elle voulait dire, quand j'avais 14 ans, quand j'étais gamine, n'importe quel bouquin avec une fusée sur le dos en bibliothèque, j'achetais. C'est-à-dire que le signe que c'est ma cam, c'est l'ASF, c'est ça que je lis, c'est ça que j'aime lire, c'est ça que je veux lire, fonctionnait, avait un impact immédiat. Aujourd'hui, la meilleure solution, la meilleure façon de ne pas vendre un roman est de mettre une fusée sur la tranche. C'est-à-dire que la catégorie marketing, ce qui fait que je repère ce que c'est censé être comme genre, sans me demander ce qui constitue le genre. Ça, c'est l'affaire des universitaires, des critiques, etc. Mais spontanément, je vois le truc, j'en ai envie, j'en ai pas envie. Eh bien, aujourd'hui, en librairie, j'en ai pas envie. Et évidemment, la conclusion de l'article de Rush, c'était, ça veut pas dire que les gens lisent pas de science-fiction. Et ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas ça. Parce qu'en effet, la science-fiction a essaimé, elle s'est diffusée, elle est devenue exactement ce que Serge décrivait. Et d'ailleurs, que la science-fiction soit devenue aujourd'hui essentielle dans la littérature blanche, très présente, etc., est, à mon avis, pas le signe de sa victoire, c'est le signe de sa défaite. Ça veut dire qu'en tant que science-fiction, en tant que genre spécifique, en tant que label, en effet, elle est morte. C'est-à-dire que c'est un peu le roi est mort, vive le roi, quoi. La deuxième chose très rapide que je voudrais dire, c'est il y a des cycles, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et c'est vrai sur tous les genres. L'horreur cartonnait, a explosé dans les années 80, et elle s'est complètement effondrée à la fin des années 80, et ce qui fait que, donc, j'évoquais la responsabilité que se donnent les éditeurs de se dire, on va quand même pas laisser disparaître un genre, ce qui est souvent une anomalie économique, mais une belle intention littéraire. Ou culturel, c'est de se dire, par exemple, quand moi en 2006, je me suis dit, mais c'est, on va pas laisser disparaître l'horreur et la terreur, et j'ai créé une collection qui s'appelle L'ombre de Bragelonne, et le temps que je la crée, c'était la seule collection dédiée à ce genre en francophonie, quoi. C'est-à-dire que Pocket Terror avait disparu, enfin bon. Donc en fait, tous les genres sont cycliques, donc évidemment, chaque genre dans le creux de la vague attend son heure et reviendra pour des raisons culturelles, etc. Très rapidement, troisième aspect, toujours en tant qu'épicier, la structuration en librairie et du lectorat. Et ça, c'est un aspect fondamental. C'est que ça fait très longtemps, au moins 15 ans, que les plus grands éditeurs du monde dans ces genres font par exemple des tribunes dans Publishers Weekly, comme Jane Johnson, qui est la grande éditrice d'HarperCollins en Angleterre, éditrice notamment de Tolkien, bon, à dire « la science-fiction et la fantasy n'ont plus rien à faire ensemble en librairie ». Ce n'est pas le même lectorat, déjà c'est pas en termes de numérique, ce n'est plus du tout la même proportion. Deuxièmement, ce sont des lectorats qui se sont dissociés, qui ne vont pas chercher la même chose en grande majorité, qui ne réagissent pas du tout à la catégorie marketing de la même façon. C'est-à-dire que, en effet, depuis 15 ans, il vaut mieux mettre sur la tranche plutôt qu'une fusée, il vaut mieux mettre une épée. Vous avez plus de chances d'en vendre. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui aimeraient lire de la science-fiction, qui arrivent au rayon science-fiction et qui n'y trouvent que de la fantaisie et qui se disent soit je me suis trompé, soit décidément ces gens ne m'aiment pas. Et des fans des gens qui liraient de la fantasy volontiers, même en ne sachant pas que c'est de la fantasy, et qui arrivent au rayon science-fiction, donc déjà, c'est mal barré, parce que le rayon s'appelle science-fiction, parce que pendant très longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui littérature de l'imaginaire, on a appelé ça science-fiction, à cause d'un primat culturel et d'une reconnaissance donnée à la science-fiction, à l'imaginaire scientifique, par rapport à la fantasy qui s'est présentée en France, ou qui a été présentée en France, comme une sorte de petit frère simplet et mais musclé du genre. Donc évidemment, il a fini par gagner, parce que c'est toujours les simplets musclés qui gagnent. Vous vous souvenez de la phrase de c'est un taxi pour Tobruk, hein, une brute qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Et donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le fait que...
Tu viens de faire la synthèse du débat.
En tant que principal éditeur de fantasy, il va falloir que je rattrape le coup derrière en disant que la fantasy n'est pas aussi imbécile qu'on croit. Mais donc là, c'est un vrai problème, parce que c'est un problème d'orientation du lectorat et donc de la clientèle en librairie. C'est une question de présentation des genres. Le dernier exemple en date pour moi est immanquable. À la FNAC, ils savent très bien ce qu'ils vendent en fantasy et ce qu'ils vendent en SF. Ils décident de faire un guide sur l'imaginaire et en couverture, ils mettent un extraterrestre en combinaison spatiale. Ça prouve qu'ils n'ont Ça prouve que quand on veut vendre de la fantasy et que par erreur on met une image de SF, on va complètement à rebours de la réalité. Et je dis pas qu'il faut éliminer les topoi et les stéréotypes SF et tous ces repères, etc. Mais en tout cas, le marché est comme ça. Et donc là, il y a évidemment une révolution à faire en librairie qui donnerait une meilleure chance à la science-fiction, parce qu'il est là en fait l'enjeu, c'est-à-dire que la fantasy marche, elle n'a pas besoin de sauver la science-fiction. Par contre, de prévoir, de permettre un meilleur accès, une meilleure visibilité, une présence accrue et un meilleur conseil, recommandation, etc. de la science-fiction en librairie, ça ne peut passer que par un espace dédié qui s'appelle science-fiction, où il y a de la science-fiction pour les gens qui veulent de la science-fiction. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Ce brouillage organise, ou en tout cas prolonge le déclin de la science-fiction par une sorte de cercle vicieux.
Je voulais revenir alors toujours sur l'histoire thématique et aborder deux plans avec Lionel Davoust. D'abord, Lionel, c'est un auteur, on a eu l'occasion d'en discuter ensemble, c'est un auteur pour qui les étiquettes science-fiction, fantasy sont des choses assez floues dans ses romans. Et puis deuxièmement, on discutait ensemble et je vais citer Lionel Davoust qui cite Robert Charles Wilson, qui peut-être citait quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui disait « la science-fiction c'est un peu tirer une balle dans le pied ou se tirer une balle dans le pied ». J'ai pas la citation en anglais, mais il le dira mieux que moi, en disant qu'elle est un peu trop intellectuelle. Alors je voudrais qu'il réagisse à ces deux choses. D'abord, ce brouillage des genres pour lui en tant qu'auteur, et puis cette réflexion de Robert Charles Wilson.
Alors, en fait, ce que disait Wilson très exactement, c'est que la science-fiction avait un petit peu tendance à effectivement s'être un peu nue à elle-même, s'être tirée une balle dans le pied, surtout parce qu'en fait, elle s'est peut-être un peu trop concentrée, ce sont les paroles de Wilson, sur un public de niche, un petit public d'initiés. Et c'est que ça lui a peut-être un peu nuit en un sens. Je ne sais pas si... je sens que tu veux réagir, Fabrice.
Ah non.
Wilson, évidemment, a une expérience que je suis... qui dépasse de très 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 loin la mienne, donc mais j'ai peut-être je serais pas très très loin de partager ce ressenti, et je pense que ce qui accentue un peu ce côté-là, c'est que d'une part peut-être effectivement que la SF en ce moment a un petit peu plus une image d'extrapolation scientifique, et comme Serge l'a rappelé très justement, le monde tel qu'il est aujourd'hui, les gens ont pas forcément ont peut-être un peu l'impression que la SF devient extrêmement dystopique, très noire, et que donc ils ont pas forcément envie de voir ça parce qu'ils le voient tous les jours. Mais surtout, je me demande s'il y a pas un truc un peu plus de fond, qui est que l'ASF très longtemps était un petit peu l'espoir, la science était une forme d'espoir très positif, même malgré, même en dépit des horreurs qu'elle permettait, il y avait quand même toujours, j'ai l'impression, une espèce d'esprit général, comme quoi la science pourrait finalement... Même s'il y aurait des problèmes, à la fin, la science nous apporterait des réponses. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, où les gens ont véritablement une grande méfiance aujourd'hui vis-à-vis de la science. Et par conséquent, puisque la science aurait perdu pour le public un certain rôle d'émerveillement, le sense of wonder, qui est quand même une composante pour moi fondamentale de l'imaginaire, finalement c'est un peu pour ça qu'on en lit, c'est pour être transporté ailleurs, pour rêver, pour réfléchir aussi, mais c'est, je pense que c'est un peu tout ce qu'on cherche quelque part, j'ai envie de dire, c'est limite une sorte de dominateur commun des littératures de l'imaginaire, même si aussi c'est une étiquette un petit peu bancale. Et si la science n'est peine à susciter cette valeur-là, où ça devient un petit peu, on voit de plus en plus de la contre-culture, alors que la contre-culture aujourd'hui souvent va à l'encontre de la science, qui est considérée comme étant le grand méchant qui va main dans la main avec les capitaux privés. Donc si elle est devenue une espèce, non, pas forcément d'ennemi, mais en tout cas d'ombre menaçante, forcément la littérature qui se base sur elle peut-être peine à recréer cet aspect d'émerveillement. Bon, après je suis pas philosophe, ni essayiste, ni rien du tout, bon, je suis juste lecteur, donc je demande la clémence du jury au cas où. Sur le sur moi ce que j'ai plus tendance à faire. Bon, déjà, je suis assez ennuyé par ce que dit Stéphane, parce que si les lecteurs de la science-fiction et de la fantasy sont deux ensembles séparés, ça veut dire que l'intersection, c'est l'ensemble vide, et vu que j'ai tendance à mélanger les éléments, j'ai aucun lectorat, donc je suis un peu ennuyé. Non, moi, c'est vrai que moi, quand je suis un peu arrivé dans le milieu, véritablement, à essayer de vouloir en faire, il y a une petite dizaine d'années maintenant, c'est vrai que je suis arrivé très naïvement au tout début en me disant moi j'aime la science-fiction, alors qu'en fait finalement je lisais beaucoup de fantasy et j'avais absolument aucune idée des différences il y a un peu plus de 10 ans entre les genres. C'est vrai que moi j'ai vraiment pas tendance à me poser la question de savoir est-ce que c'est de la SF, est-ce que c'est de la fantasy. J'ai vraiment tendance juste à vouloir faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai une idée marrante, moi qui m'amuse, et puis je réfléchis à la façon de le justifier derrière. La magie finalement en fantasy, donc bon, si on dit que la science-fiction c'est une extrapolation à base scientifique et la fantasy une extrapolation à base de merveilleux, la fantasy a quand même des règles très très fortes dans la magie. Quand vous définissez un système de magie, cette magie a des règles. Ça remonte jusqu'au conte. Cendrillon, si tu rentres après minuit, tu rentreras à pied. Donc il y a vraiment des règles très fortes, et Clark disait toute technologie suffisamment avancée est indistinguable de la magie. Moi, vraiment la sensation, en tout cas l'imaginaire, enfin donc apparemment ça va à l'encontre des évolutions du marché, donc bon, tant pis. Mais pour moi l'imaginaire c'est véritablement juste une grande famille où finalement on décide que la réalité peut être autre, on fait un pas de côté et puis on discutait avec Elisabeth Von Arbour. Voilà, c'est simplement toutes ces familles de l'imaginaire, pour moi, partagent le même regard, qui est qu'on va regarder le monde sous un autre angle, et on va raconter une histoire avec ça, on va en ramener quelque chose, du rêve ou même une réflexion, etc. Donc, personnellement, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je me suis rendu compte, 2 semaines après qu'il était sorti, que dans L'importance de ton regard, il y avait même un texte de littérature générale. Je m'en étais pas rendu compte, donc mes excuses. Voilà, donc pour moi, l'imaginaire, c'est juste ça, c'est avoir envie de jouer avec la réalité, avec ses codes. Et puis, après, on voit comment on justifie une idée cool, enfin, qu'on trouve cool, qu'on a à la base, et avec laquelle on a envie de jouer.
Merci. On va passer la parole à Fabrice Collin qui a été très sage jusqu'ici et qui n'a rien dit. Et pourtant, il en a des choses à dire. Alors, Fabrice écrit de nombreux romans dans un petit peu tous les genres et finalement assez peu en science-fiction. Alors déjà, peut-être une première question. Pourquoi ? Est-ce que c'est les thématiques qui t'intéressent moins ?
Alors déjà, c'est pas vrai, parce que ça, c'est la collection Jeunesse. Alors je sais bien, c'est de la jeunesse, mais collection Autre Monde, et j'ai écrit 7 romans dans cette collection. Alors si 7, c'est pas beaucoup, je sais pas ce qu'il te faut. C'est une collection de science-fiction. Bon, je suis un peu embêté de parler en quatrième, parce que tout a été dit presque, et j'espérais vaguement que les gens se mettraient sur la gueule et que je pourrais... contempler le champ de cadavres et bon et en fait on a l'air tous plus ou moins d'accord en gros non moi j'ai rien contre la science-fiction heureusement j'ai le sentiment bon pour rebondir un peu sur ce qui a été dit que effectivement quand on regarde par exemple il y a un bouquin dont le titre m'a interpellé il y a quelques années, c'est Identification des schémas de William Gibson, parce que on a quelqu'un qui était qui réfléchissait sur un avenir à 20 ou 30 ans il y a 20 ou 30 ans et qui arrivait dans les années 2000 réfléchit sur maintenant voire très légèrement le passé quoi. Tout en prétendant toujours écrire de la science-fiction. Voilà, avant on se demandait qu'est-ce qui se passera plus tard, identification des schémas, le titre veut tout dire, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, quoi. On comprend plus très bien. Et alors, bon, les événements type 11 septembre qui induisent une espèce de disruption un peu dans le continuum, on se dit, voilà, on peut plus prévoir quoi que ce soit aujourd'hui. La science, les avancées scientifiques, c'est vrai qu'il y a intérêt à s'accrocher vraiment en tant qu'auteur. Moi, la raison pour laquelle j'écris pas de science-fiction en adulte, très clairement, c'est parce que je m'en sens pas les compétences scientifiques et je me dis, comme le disait Serge tout à l'heure, qu'il me faudrait 10 ans de boulot pour arriver à se constituer le bagage nécessaire. Et au terme de ces 10 ans, évidemment, les choses auraient complètement changé, donc il serait trop tard. Dans cette espèce de de maelstrom, de signaux et de schémas. Aujourd'hui, il me semble que peut-être la force de la fantasy, c'est justement la structure des histoires. Non pas, je pense même pas, je crois pas forcément au refuge vers le passé, puisque la fantasy décrit pas le passé, elle décrit un autre monde dans lequel, voilà, le merveilleux a le droit de citer la magie, etc. Mais quand je regarde finalement les films estampillés science-fiction qui ont le mieux marché de tous les temps, c'est quoi? C'est Star Wars et c'est Avatar. Est-ce que c'est de la science-fiction? J'ai pas l'impression, quoi. Même quand on regarde Avatar, je veux dire, c'est de la fantasy. Effectivement, il y a des robots, ok, mais et des extraterrestres. Alors, je vois des gens qui sont pas d'accord, c'est super. mais non, mais je veux dire, la structure de l'histoire, enfin, je veux dire, c'est un truc assez manichéen avec des. Voilà, ça a été comparé à Pocahontas ou à plein d'autres choses ou à des récits d'exploration, de conquête, etc., qui sont pour moi des récits de fantasy. Moi, je m'en fous de savoir que les types, les ordinateurs, des vaisseaux, etc., et que ce soit sur une autre planète. Pour moi, ça suffit pas à faire de la science-fiction au sens où moi je l'entends. Aujourd'hui, en tant qu'auteur, c'est un peu compliqué parce que on dit que voilà, la science-fiction, alors, par exemple en jeunesse, la plupart des éditeurs émettent aucune distinction entre fantasy et science-fiction parce qu'ils simplement ils connaissent pas, quoi. Alors, exception la collection Outremonde et maintenant la collection Soon chez Cyrose, qui sont vraiment des collections dédiées au genre. Je suis pas sûr que en fait ça leur porte chance au niveau des ventes, enfin j'en sais rien, mais la plupart des gros succès de la littérature jeunesse dans, on va continuer à parler des littératures de l'imaginaire, ces dernières années sont des bouquins évidemment qui sont estampillés rien du tout, ni fantasy, ni science-fiction, même s'ils mélangent les éléments des deux, surtout si vous commencez à dire le nom, c'est foutu. Moi je vais en collège 30 ou 40 fois par an, une fois sur deux, j'ai un professeur, pas un élève, hein, un professeur qui me dit « à votre livre, j'ai réussi à le lire, je suis content parce que à la base, bon, c'est de la science-fiction, donc je me suis dit, bah, c'est pas pour moi. Puis bon, ils sont obligés visiblement à un moment, et donc ils en lisent, ils disent, oh bah, j'y arrive en fait. Donc la science-fiction, c'est pas que de la hard science, mais il y a cette idée quand même dans le grand public qui fait, à mon avis, barrage à la lecture, en tout cas à l'envie de lecture, dans un monde où non seulement il y a un morcellement des collections, des genres, etc., mais en plus il y a une concurrence, je veux dire, la littérature est concurrencée par le jeu vidéo, le cinéma, les séries de télé, etc., internet. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Si en plus il faut se taper des bouquins de 2000 pages qui manient des concepts scientifiques supra ardus, voilà, les gens n'ont pas envie. Je synthétise hein, à dessein. Et puis en même temps, effectivement, comme le soulignait Serge tout à l'heure, il n'y a jamais eu la science-fiction n'a jamais été aussi présente en littérature générale, que ce soit chez Pynchon, chez Murakami, chez Dantec, chez Houellebecq, etc. Et moi, qui côtoie des auteurs de littérature générale en adulte, je remarque qu'il y a toujours un fantasme. Les gens, en gros, disent « Ah, vous avez de la chance de faire la science-fiction. » Bon, mais de là à aller publier eux-mêmes dans les collections de science-fiction, ils sont pas fous quand même, quoi. Y a un problème, y a une question, il y a un problème éditorial, effectivement. J'arrive pas du tout à déterminer si le fait que la SF soit désormais soluble dans la littérature générale signifie sa victoire ou sa défaite. Je pense que c'est vraiment une question de point de vue, quoi.
Petite question sur les ados, parce que tu fais des rencontres. L'intérêt des ados pour les livres de science-fiction qu'ils lisent, et que parfois on les oblige à lire, tu sens plutôt de l'intérêt de leur part et pas du tout...
Ces collections comme Outremonde ou comme Soon chez Cyrose sont des collections de vulgarisation de la science-fiction. Donc par exemple, leurs parents qui les lisent souvent avec plaisir, et c'est des livres qui sont faits justement, je pense assez intelligemment, mais je parle pas de la part des auteurs, mais de la part des éditeurs, pour faire rentrer la science-fiction dans les foyers en disant aux gens, regardez, c'est pas compliqué, quoi. Et effectivement, ça l'est pas. J'ai aucun roman de cette collection nécessite des compétences particulières scientifiques. Donc, pour les gamins, c'est juste un récit d'aventure où la science est remplacée par la magie. Je pense effectivement qu'au niveau signalétique, je suis assez d'accord avec Stéphane, c'est-à-dire que quand il y a des vaisseaux sur la couverture, les gamins, ils ont pas trop envie. Actuellement, ils préfèrent des gens avec le teint pâle et des jeans déchirés, mais ils sont pas gênés par le fait de lire de la science-fiction. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'ils s'en fichent, science-fiction, fantasy, etc. C'est pour ça que c'est assez curieux parce que je suis à la fois d'accord avec Stéphane. Je pense que les deux lectorats sont en train de s'écarter l'un de l'autre. Ces deux littératures qui n'ont plus grand-chose à voir. Et puis, il y a certains endroits où on retrouve les deux mélangés. Et voilà, c'est une confusion, bah, pas possible.
Oui, vas-y. Non, d'accord. Une petite question ouverte, puis on passera aux questions du public. Sur ces auteurs de littérature générale qui font de la science-fiction, je vais pas dire, est-ce qu'ils ont conscience de faire la science-fiction, mais est-ce qu'ils le revendiquent comme tel? C'est une question soit pour toi, soit pour Serge, l'un des deux. Tu veux répondre?
Très vite, enfin, la plupart de ceux que j'ai cités ou que Fabrice a cités, ils disent pas dans leurs interviews que c'est des romans, qu'ils font des romans de science-fiction. D'ailleurs, ce serait techniquement faux. Mais quand on leur pose la question, est-ce que c'est une de vos sources d'inspiration ou est-ce que ce passage, c'est la deuxième partie du livre est de la science-fiction, oui, ça c'est désormais c'est admis. Ce qui est une très grande différence par rapport à il y a une vingtaine d'années où, enfin, on parlait du label Maudit, on disait il faut surtout pas dire le nom, quoi. Bon, aujourd'hui cette inhibition-là, elle est tombée. Mais il y a mille et une manières d'interpréter ce phénomène. On peut y voir une victoire, on peut y voir une victoire à la Pyrrhus, on peut y voir une défaite. Tout dépend de ce à quoi on est attaché. Si, quand on dit, je sais pas, déclin ou imaginer un retour de la science-fiction, on parle de la vieille structure éditoriale avec un label clairement identifié, une place en librairie à part, une culture qui s'auto-développe comme elle l'a fait pendant pratiquement un siècle. Je suis pas sûr qu'on retrouve ça, non, effectivement. Oui. Mais c'est peut-être pas non plus. On n'en est peut-être plus là. Enfin, je veux dire, il faut être peut-être prêt à lâcher prise quelque part là-dessus. Je dis ça, j'en sais rien. Hein. J'ai pas de bille particulière dans ce truc-là, mais je me pose la question. Dans ce que Fabrice disait sur Star Wars et Avatar, il y a quand même quelques grands films qui ont marqué et qui ont eu beaucoup de public, mais peut-être pas dans ces proportions-là, qui relèvent de la pure SF. Et Matrix a été quand même vraiment un moment décisif. Il y a un moment où on a retrouvé. Moi, dans la préface de l'anthologie, je vois dans le fait que des auteurs de science-fiction ont été reconnus comme étant des bons auteurs, enfin, ou des auteurs de littérature depuis 1950, depuis que le genre existe en tant qu'entité éditoriale mondiale. Bradbury a tout de suite été reconnu, en particulier grâce à Queneau. Bon, périodiquement, des auteurs ont été reconnus. Mais tous ces auteurs avaient quelque chose de très particulier. Ils étaient soit très pessimiste, soit il n'y avait pas de science dans leur texte. Ils étaient, enfin moi je les trouvais métaphysiquement éteints. Enfin bon, mais c'est un autre sujet. Et il me semble que le moment, le tournant a été pris au début des années 90 quand deux auteurs qui produisent vraiment l'émotion SF dans ce qu'elle a de plus spécifique, qui sont Philip K. Dick et William Gibson, ont été à nous eux reconnus comme des auteurs de littérature de plein droit et publiés, réédités dans des collections blanches. Pour Dick, quand Dick est passé, je ne sais plus, c'est 10-18, je crois, hein, sans marquage SF, et donc il fait son entrée en littérature générale. Bon, c'est pas un hasard si juste après, Houellebecq et Dantec arrivent dans la foulée, quoi. Moi, je pense quand même que l'émotion SF, dans ce qu'elle avait de plus spécifique, qu'est cette espèce de spéculation un peu vertigineuse, pas forcément sur la science, mais sur la réalité rationnelle, voilà, dans laquelle on vit, ces ressources cachées, disons, du point de vue cognitif. À partir du moment où cette émotion-là fait partie de plein droit de la littérature, d'une certaine manière, on peut quand même dire qu'il y a une espèce de cycle de développement qui a duré un siècle et qui s'achève.
Pour ceux que le sujet intéresse, il y a 700 pages sur le forum d'ActuSF.
Non, mais ce que je veux dire, c'est le découpage du champ éditorial en genre. C'est un phénomène qui date du début du XXe siècle. Enfin bon, avant, il y a des genres littéraires, mais il n'y a pas vraiment de genres éditoriaux. La grande époque du fantastique européen au XIXe siècle, il n'y a pas de collection de fantastique. Le fantastique, Théophile Gautier en fait, Hugo en fait, Hoffmann en fait, Naudier en fait, ils sont publiés. Enfin voilà, il n'y a pas. On ne marque pas. Bon. Le marquage, c'est. Essentiellement les Américains, un peu les Européens au tout début du XXe, et puis les Américains beaucoup à partir des années 20, qui l'inventent, qui inventent les grandes catégories de la fiction. Mais on peut voir ça. Et avant ça, ces grandes catégories de la fiction, elles font partie de la littérature. Bon, là aussi, on peut renvoyer au fil d'Actu SF, mais on en a beaucoup parlé. Mais Rony Aîné et Wells, ils sont pas hors, enfin bon, ils sont pas hors littérature quand ils publient. Ils sont de la fiction de divertissement. Mais enfin bon, Wells, il a rencontré Roosevelt et Staline. Rony, il a été président de l'Académie Goncourt. La mort de la Terre a été publiée dans les Annales politiques et littéraires en 1909. On est loin des collections, quoi. Bon. Et le fait qu'aujourd'hui, l'un des auteurs français les plus intenses, à mon avis, Houellebecq, soit un auteur qui fait, dont la moitié de l'œuvre est de la science-fiction, y compris avec un essai sur Lovecraft, me paraît au fond être le signal que, après un siècle de développement séparé, on peut considérer que le genre est suffisamment mûr et que la culture ambiante est suffisamment mûre pour que ce soit des... Ça peut être considéré comme des retrouvailles, voilà. Alors, mais c'est peut-être une défaite, mais c'est aussi, à mon avis, une victoire.
Mico, en même temps, enfin, je réfléchissais pendant le débat, c'est vrai que même la fantaisie est peut-être pour son versant historique, parfois aux limites du genre, et publiée parfois en littérature générale, sans étiquette. Et même si ça se voit peut-être pas aujourd'hui sur les ventes de collections spécialisées, mais c'est un phénomène qui existe. Alors, il est 10h52, il nous reste très exactement 8 minutes et encore plein de sujets à aborder. Peut-être, avez-vous des questions? Et s'il y avait une question sur le déclin de la fantaisie dont parlait Stéphane Marsan, ça m'arrangerait, parce que là, j'ai pas le temps d'en parler. Mais néanmoins, vous pouvez aussi poser d'autres questions. Merci.
Ouais, attends, deux petites minutes.
Très rapidement, puisque c'est pas le sujet du... comme j'ai dit tout à l'heure, tous les genres sont cycliques, hein, et donc ils subissent des hausses et des baisses. Oui, aujourd'hui, la fantasy amorce un déclin. Il est lié, non pas au désintérêt du public, il est lié à la... en un sens... En gros, on ne publie que ce qu'on reçoit en tant qu'éditeur. Hein, on peut pas inventer les bouquins, et on sort pas du micro-ondes. Donc en gros, quand on reçoit moins de fantasy... On peut pas publier autant de fantasy. Moi qui suis un éditeur qui publie très majoritairement de la fantasy, aujourd'hui j'ai moins de grands bouquins de fantasy à me mettre sous la dent, ou même de bouquins tout court, de fantasy à mettre sous la dent que j'en avais encore il y a 2 ans. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui le genre qui est en essor, c'est la bitlit. C'est la bitlit. Voilà. Bitlit. C'est comme la chiclit avec to bite. C'est-à-dire, en gros, le... Voilà. Ben oui. La romance vampirique, le bon.
La romance vampirique.
Oui. C'est hyper intéressant d'ailleurs de faire cette remarque parce que c'est typiquement un genre qui est en train de se structurer comme une catégorie marketing. Donc ça veut dire jusqu'à présent elle n'en avait pas. C'est-à-dire que les étiquettes, je dis romance vampirique, c'est vampire romance en Angleterre, paranormal romance, supernatural porn. Porno surnaturel, etc., etc. Et finalement, la catégorie marketing bitlit est en train de subsumer tout ça petit à petit. Mais en gros, vous le voyez, pour le dire rapidement, c'est du sentimental avec des vampires. Bon. Et donc, du coup, l'accroissement énorme du marché pour ce genre, au départ aux États-Unis, puis dans le reste du monde, fait que, en gros, on en reçoit de plus en plus quand on est éditeur en France. Et non, vous voulez pas plutôt traduire ça? Mais moi, je ferais plutôt de la fantasy. La fantasy, j'en ai plus. Vous voulez pas plutôt faire des vampires? Bon. Et pourquoi vous en feriez pas? Regardez comment ça marche. Bon. Donc voilà, l'essor d'un genre et la constitution d'une catégorie marketing dominante, ça se fait comme ça. Ça retombera évidemment. Bon. Mais ça nous montre une chose que je pense que dans le domaine de l'imaginaire, on a tendance à oublier, c'est qu'on n'échappe pas aux modes, nous non plus. Or, il y a un petit point que je voulais dire rapidement, c'est que je pense que l'une des conséquences les plus gênantes du déclin de la science-fiction, c'est le fait qu'on a de moins en moins d'ouvrages de science-fiction qui vont s'imposer comme des classiques. Or, les classiques de la science-fiction, j'ai relu complètement par hasard, j'ai relu les premières pages et j'ai pas pu m'empêcher de continuer de Fahrenheit 451 récemment, c'est absolument extraordinaire ce bouquin. Enfin, franchement, je mets au défi quiconque d'ouvrir ce livre et de pas être complètement captivé et même à la fin de se dire mais bon, il se passe quelque chose là-dedans, que ce soit SF, pas SF, que ça soit maintenant la littérature blanche, etc. C'est une autre question, mais en gros, ces classiques-là, je pense qu'il est de plus en plus difficile d'en compter ces dernières années. Or, ces classiques-là qui sont prescrits dans les écoles, c'est, moi j'ai découvert la science-fiction en lisant Noh et Nurk de Vulle, voilà, et je me souviens très bien, j'étais quand même le seul de la classe à avoir aimé, et là j'ai commencé à me dire, la SF, ça va être coton, Stéphane, reste pas là-dessus, parce que sinon ta vie sociale, c'est fini. Ah ouais, lui c'est le mec qui aime la SF, ah, d'accord. Donc... Écoute, j'ai eu Dunyak, Clegg et Jeune Fort pour faire de la SF chez moi, donc j'ai un peu... Bon, ce sera répété. Voilà, donc c'est pour ça que... Bon, ceci dit, donc, ça ne veut pas dire que la fantasy disparaisse, ça ne veut pas dire qu'aucun genre disparaisse complètement, mais voilà, on est en train... Et c'est hyper excitant, hein, en tant qu'éditeur, d'être présent et d'être... Enfin, d'avoir de m'être déjà taillé la part du lion, d'ailleurs, sur la bitlite, mais en gros, d'être présent juste quand tu es en train de naître, de s'imposer un genre et de naître une catégorie marketing. C'est pas tous les jours, quoi. Non, on en reparlera, mais en fait, si...
Vivement l'émergence du porno science-fiction.
On a un jury de...
Philippe-Joseph Armand.
Chez nous, Québec et Solaris. Et ces dernières années, on recevait plus de fantasy que de science-fiction. Et depuis 3 ans, c'est complètement l'inverse. Donc les jeunes auteurs, les débutants, les aspirants, qui ont entre, en général, 18 et 35 ans, ils ont envie d'écrire la science-fiction. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même absolument intéressant. Voilà, donc, ouais. Ne perdons pas tout.
Une petite question bien fort pour que tout le monde entende.
Je voudrais savoir, parce que vous parliez de chiffres, il y a 30% de baisse de chiffre d'affaires dans les librairies, mais ils ont à peu près 60 à 70% de livres de Bourgeois des militaires au rayon. Et très peu de place pour la littérature science-fiction, du fait qu'il n'y a plus de place, parce qu'ils n'ont pas des rayons extensibles. Est-ce que le problème n'est pas peut-être là aussi de dire qu'il y a trop de fantaisie et en ce moment de vampirique, et que parce que les libraires sont imposés d'avoir en office du bras jeune et n'ont plus de place pour mettre autre chose.
Alors je vais essayer de répondre très vite parce que là ça mériterait, j'ai beaucoup de choses à te répondre, hein. Premièrement, les libraires ne sont obligés à rien. D'accord? Un libraire qui ne veut pas avoir des livres de machin ou de trucs, il les prend pas et c'est tout. Il peut même les prendre et les renvoyer le lendemain, il est remboursé. Pas moi. En tant qu'éditeur. Moi, l'imprimeur, il ne rembourse pas. Donc, non, le libraire n'est obligé à rien. Deuxièmement, si les rayons sont extensibles. L'exemple que je prends toujours, c'est le Sudoku. Hein. Avant l'apparition du Sudoku, il n'y avait pas de place. Hein. Puis le Sudoku est arrivé, puis il y avait de la place pour le Sudoku, dis donc. Pourquoi ? Parce que c'est un choix. Tu choisis en tant que libraire, ou en tant que fromager, ou en tant que n'importe quel commerçant, puisque la définition de libraire dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui fait métier de vendre des livres. Ce qu'il serait bon qu'il se rappelle de temps en temps, et donc ça veut pas dire quelqu'un qui fait métier de conseiller des livres et d'être critique littéraire, c'est pas la même chose. Donc si c'est extensible, c'est-à-dire qu'en fait on fait des choix. C'est même extensible d'une autre façon, c'est que quand un patron de librairie se rend compte que nom d'un chien le chiffre d'affaires du rayon fantasy SF a augmenté, il se dit bah on va mettre une table de plus, on va mettre des rayons de plus. En fait si c'est extensible. Fondamentalement, je pense, oui, enfin, c'est un aspect que j'ai pas abordé, mais il est évident que je peux jouer le rôle de celui qui, à cette table, représente ou peut endosser une responsabilité du déclin de la science-fiction, vu que j'incarne l'essor de la fantasy. Je pense, premièrement, que ça n'empêche aucun roman de science-fiction qui devient un succès de l'être, c'est-à-dire qu'il y a des romans de SF qui marchent pas, il y a des romans de SF qui marchent très bien. L'exemple qui va devenir un cas d'école de ces dernières années, c'est Spin de Robert Charles Wilson, qui n'a jamais vendu plus de 2000 exemplaires tout mouillé, hein, et tout d'un coup, il vend, je sais pas combien il est maintenant, c'est faramineux, quoi. Bon, donc c'est 20, 30, etc., milliers d'exemplaires. C'est très impressionnant. Donc, le libraire fait un choix. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les libraires qui nous réclamaient de la SF en disant « j'adore la SF, j'en ai plus assez à mettre en rayon, etc. », ils en mettent toujours pas plus en rayon. Donc, après tout, c'est aussi leur problème de trouver... Et je dis pas que c'est simple, hein, mais un rapport entre eux, j'ai envie de pousser ce genre, mais c'est pas ce genre-là qui va me faire manger prioritairement. Comment je pourrais trouver un accord entre les deux ? Bon. Enfin, Bragelonne publie de la science-fiction. En effet, avec une collection TSF, les trésors de la SF de Rangenfort, collection patrimoniale, qui ramène des auteurs injustement oubliés de la science-fiction à l'honneur. Et d'ailleurs, Serge Lehmann nous a fait l'honneur et le plaisir de diriger un recueil consacré à Rony Henné qui sortira l'année prochaine. Et puis, il y a une collection de science-fiction qui a été créée par Jean-Claude Dugnat, qui est aujourd'hui dirigée par Tom Clegg, qui fait quand même un voire deux titres par mois en grand format, autant en poche. C'est-à-dire que je suis l'éditeur en France qui publie le plus de science-fiction.
Elle a pas été arrêtée,
non, non, madame. Mais elle est de moins en moins visible. Donc, voilà, au final, je pense qu'il y a là-dedans une illusion d'optique. Par contre, ce que je ne peux nier, parce que c'est la réalité, c'est que je suis, Bragelonne et Milady reflètent des tendances du marché. Parce que moi, je suis au service de l'auteur et je suis là pour que l'auteur vende le plus de livres possible parce que c'est ça son intérêt. Donc, en gros, je vais tout faire pour qu'il vende le plus de livres possible et je ne peux pas à lui dire on va publier ton livre mais ça va pas marcher et t'auras perdu 2 ans de ta vie sur un livre qui sera lu par 40 personnes, mais c'est formidable, non? Et je peux pas dire à mes 40 salariés bon, vous serez pas payés ce mois-ci, mais vous comprenez, c'est quand même un grand livre de science-fiction, il fallait le publier. Non, j'en ai rien à foutre, hein, quand je veux payer mon loyer aujourd'hui. À ce moment-là, science-fiction, ça leur importe beaucoup plus. Mais je ne fais pas complètement le dos rond, je serais ravi de poursuivre cette conversation.
Bien, on aurait pu avoir 3 heures de débat, je pense, facile. Merci à tous d'être venus pour ce samedi matin. Restez là, il y a une autre conférence, et si vous ne restez pas là, allez directement vous faire dédicacer les livres des auteurs présents à la table. Merci à tous.